Et salut, vous êtes bien sur le 89.5 Radio Dio. On est le dernier lundi du mois d'avril, le 25, à 13h. Et comme tous les derniers lundis du mois, c'est joie, rage et courage. Une petite heure d'émission pour vous causer de trucs qui nous foutent la pêche et qui donnent des perspectives et des idées. Et aujourd'hui, on va parler de bouquins. Plus particulièrement de deux projets. Le premier, c'est un projet de journal d'analyse et de récits d'analyse et critique, une revue qui s'appelle Tumult. Et le second, c'est une imprimerie de lutte du côté de la région parisienne. À chaque fois, vous allez voir, il y a des enjeux de comment on arrive à prendre possession de connaissances et de compétences collectivement, et comment on essaie de faire les choses bien. Allez, on va directement dans un petit hangar de couronne parisienne.
C'est une espèce de deux petits rectangles avec beaucoup de machines, toutes recouvertes de draps, donc on voit pas trop ce que c'est comme machine au premier coup d'œil.
C'est un peu le bazar.
C'est pas mal le bazar. Des néons qui pendent des murs et toute une série d'affiches plus ou moins ratées ou réussies selon nos critères esthétiques.
Et ces deux petits rectangles, ils existent depuis longtemps? Ils sont comme ça depuis longtemps?
Là, ça fait, je sais pas, ça doit faire 7 ans peut-être, ici, qu'il y a cette imprimerie. Dans ce lieu, bah, ça a un petit peu bougé parce qu'au départ c'était un peu plus grand, c'était deux fois plus grand en fait. Et puis bah, pour des questions de sous, hein, comme souvent, on a dû couper l'espace en deux. Et donc c'est pour ça qu'on est un peu encombré avec toutes nos machines. Puis surtout qu'on en récupère des nouvelles ou on en achète pas cher, tout ça. Donc bah, du coup on en entasse et c'est un labyrinthe un peu des fois pour se déplacer et tout.
Ok. Du coup, vous parlez d'affiches sur les murs. Est-ce que vous pouvez décrire un peu quel genre d'affiches c'est, quel format elles ont
Ouais. C'est surtout des affiches en A2. Souvent elles sont en une ou deux couleurs. On fait pas trop de quadrichromie. Parce que ça nous... Enfin, quand on présentera la machine, on peut plus expliquer quoi. Il y a des affiches de contre les centres de rétention,
contre la gentrification, contre les prisons, contre le capitalisme, contre
les caméras,
les expulsions locatives, les expulsions de squat, contre, bien sûr. Oui, je crois qu'il y a quelques affiches. Il y a une affiche pour une soirée 80s. Je crois que c'était une expérience quadrichromique, justement.
Pour une kermesse aussi, pour un squat.
Du coup, c'est des affiches où il y a des textes. Il y a des photos, des textes, des dessins aussi.
Ouais, oui, pas mal de textes. Enfin, celles qu'on voit là, on n'a pas fait que ça. Hein. Mais
on a imprimé aussi quelques brochures, donc elles ne sont pas forcément affichées au mur parce que c'est moins joli. Mais...
On a fait peut-être 2 livres.
Oui.
Ouais, pas plus.
C'est très long de faire un livre. Ouais.
Oui.
Tout à la main là avec toutes nos machines un peu. Je sais pas.
Approximatif parfois. Du coup, c'est plutôt 3 semaines quoi. Un livre. Peut-être un peu plus même. Oui, je suis gentille.
Alors qu'une affiche, ça se fait en une nuit de mouvement, c'est ça?
Exactement.
Ah ouais, 5 minutes.
De couleur, ouais. 10 minutes.
Ouais. Non, ça varie de 2 heures à 3-4 jours selon les problèmes qui se pose à nous, quoi.
Ouais.
Parce qu'il y a des problèmes imprévus des fois, mais de moins en moins, parce qu'on est maintenant on est taqués là.
Mais alors vous êtes vraiment des pros. Et puis d'ailleurs, c'est quoi le on et le nous qui est utilisé depuis tout à l'heure?
Le on et le nous, déjà il y a nous deux, nous sommes là, et après on est 5 à savoir se servir de la machine, tout seul ou à deux, quoi.
C'est un très long apprentissage, enfin ça dépend pour qui, mais quand même c'est assez long d'apprendre à servir d'une machine comme ça. C'est comme passer le permis de conduire, sauf que c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'une voiture. En fait, pour moi, c'est plus comme apprendre un instrument de musique, en fait, je pense. Parce que c'est beaucoup plus subtil et tout qu'une voiture, par exemple. Mais ça reste une machine, par contre. Même si ça joue de la musique, un peu comme un instrument de musique. Prendre vachement de réflexes, en fait. Parce que t'écoutes en permanence la machine, tout ça. Donc c'est très long, du coup. On n'est pas un gros collectif, quoi.
Et du coup, cet apprentissage, vous l'avez fait comment ?
Et il y avait surtout une personne, et après trois autres personnes qui savaient se servir de la machine. Et enfin moi par exemple, je suis venue là, au début je suis venue regarder, laver les mouilleurs. C'est un peu le bizutage, ça. Non, je rigole. On le fait plus, hein, parce que et faire quelques petites tâches de la machine, quoi. Réceptionner le papier, aider quelqu'un à faire une des tâches de la machine, régler l'ancrage. Et puis, au fur et à mesure, surtout la répétition, je crois, qui fait que ça rentre un peu, quoi. Ouais.
Mais actuellement, dans l'imprimerie, tous les gens qui savent se servir de la machine, ils ont eux-mêmes appris de personnes qui avaient appris de personnes qui avaient appris de personnes qui avaient peut-être fait une formation une vraie formation professionnalisante. Et du coup, il y a beaucoup de trucs et d'astuces que aussi on a appris en lisant des livres ou en allant voir d'autres imprimeurs du coin ou d'autres villes, d'ailleurs. C'est un peu bricolé, quoi, comme apprentissage, mais c'est chouette d'apprendre comme ça aussi.
Et du coup, c'est un apprentissage en le faisant, et toujours accompagné ou collectivement, quoi, en se trompant.
Je pense que c'est quand tu fais vraiment des grosses conneries que après tu te souviens que faut plus refaire ça.
Et en fait, du coup, vous êtes rencontrés autour de cette machine, ou c'est un groupe qui s'est constitué autour de d'autres choses qui après a abouti à se retrouver là autour de la machine?
Je pense que c'est plus on se connaissait déjà, mais on se croisait sur des luttes en région parisienne, en fait. Des personnes qui avaient un intérêt pour cette machine, et puis où le courant passait un peu, on s'est dit peut-être que tu pourrais rentrer dans le collectif, et puis c'est comme ça que le collectif s'agrandit. Mais en général, on se connaissait peut-être pas hyper bien avant de faire l'imprimerie ensemble, mais quand même on s'était déjà croisés plutôt sur des luttes, quoi.
Et c'est quoi les motivations, en fait, de se dire je consacre tant d'heures ou tant de jours?
Je pense qu'il y a deux ou trois choses. Déjà, il y a quand tu imagines les possibilités qu'il y a pour. Avec cette machine, tu peux vraiment imprimer des quantités astronomiques d'infos, d'affiches, d'agitation et tout. Ça donne vachement d'idées, quoi. Donc, au départ, c'est vraiment ça, de se dire on va pouvoir imprimer des centaines de milliers d'affiches, et puis on sera des centaines de milliers pour aller les coller, et puis la société va changer parce que les gens auront lu les affiches et tout. Bon, évidemment, ça s'est pas passé comme ça, mais je pense qu'il y a cette idée-là que avec cet outil qui est à nous, on imprime ce qu'on veut, alors qu'on veut
d'être autonome dans la diffusion de ces affiches-là, de ces textes-là, quoi. De sentir que tu peux, de bout en bout, réaliser quelque chose, quoi, et diffuser quelque chose.
Et quelque chose qui paraît hyper technique et hyper compliqué au départ. Enfin, ça ne me serait pas venu à l'idée avant de me dire je vais pouvoir imprimer 10 000 affiches comme ça, quoi, toute seule. Enfin, pas toute seule, mais avec un collectif. Enfin, normalement, tu vas à l'imprimeur du coin qui te fait payer je sais pas combien. Et il y a une deuxième chose, je pense, c'est personnellement, il faut que tu aies une attirance pour le papier, les encres, les produits chimiques. Enfin voilà, puis puis même un peu la machine. Il y a quand même un rapport à la machine un peu spécial.
D'avoir un rapport à quelque chose de technique, enfin d'apprendre quelque chose, un savoir-faire que moi je. Enfin, c'était pas trop des trucs que je connaissais, et du coup c'était un peu intriguant d'essayer de s'accaparer la machine un peu, de connaître un peu comment elle fonctionne et tout, quoi. Mais au début, je sais pas si tu te rends compte que ça va être si laborieux que ça. Et après, c'est surtout la phase d'apprentissage, que tu te dis « Ah ouais, je me suis lancé là-dedans ouais. ». Mais en même temps, t'as envie d'être capable d'arriver à dépasser ça, quoi. Et une fois que c'est fait, il y a quand même...
le papier.
Ouais. Il y a un peu... ça devient plus simple, quoi. Un peu de satisfaction de se dire « Ah ouais, on peut imprimer tranquillement ça. Si » Enfin, après, il y a toujours la question du temps, quoi. Pourquoi on consacre ce temps-là à imprimer, quoi. Parce que nous, on n'imprime pas vraiment les trucs qu'on réalise nous-mêmes. Et du coup, c'est un peu... Enfin, c'est pas des commandes. Ça, si, c'est comme des commandes. Et après, on essaye de mettre en place un truc où les... où il y a un échange entre les gens qui nous proposent d'imprimer des choses et nous, ce qu'on réalise, quoi.
Est-ce que il y a une ou deux impressions? Vous avez trouvé ça trop bien, enfin le truc imprimé, la manière de le faire, et pourquoi, et est-ce que vous voulez en parler, quoi?
Je sais pas, moi j'en vois plusieurs qui sortent un peu du lot. C'est là, je crois que c'est quasiment la dernière qu'on a fait. On a imprimé une planche d'autocollants pendant une soirée de soutien pour l'imprimerie, où on a invité plein de gens à aussi à proposer des visuels pour des autocollants. Et du coup, on a imprimé en public. Et du coup, ça, c'était assez chouette de pouvoir montrer à plein de gens en même temps. Et puis, en plus, ça nous a donné la pêche, parce qu'on a imprimé super vite. Et c'était motivant, quoi. C'était une impression apéro faite. Ça, c'était cool.
Et tout le monde est parti avec ses autocollants.
En plus, ouais.
Ouais, ça permettait aussi de sortir peut-être du réseau. Souvent, ça passe vraiment par la connaissance... inter-individuel et tout, et de sortir un peu de ce réseau-là et d'essayer de faire parler de l'imprimerie à plus de gens. On avait diffusé la soirée sur Internet aussi, essayer de faire un petit effort d'affichage, etc., pour parler de l'imprimerie et de cette soirée. Et moi, juste sur les impressions, j'ai l'impression que celle qui était un peu... où je me suis sentie vraiment à l'aise avec la machine, et j'étais contente de pouvoir imprimer et de me sentir un peu autonome dessus. C'est des impressions un petit peu longues, et où on a fait tout de bout en bout, où on tournait, quoi. On était 4-5, mais pas forcément là tous les jours, et où aussi peut-être les personnes qui avaient le plus de savoir sur la machine étaient pas présentes, et du coup c'était l'impression de ça y est, on a passé, enfin on a pris le relais, en tout cas on est capable d'être autonome sur cette machine, et ça donnait un peu confiance et se dire ouais, la transmission elle est un peu faite, et ça, c'était assez chouette, quoi.
Moi, la première fois où j'ai pris la machine toute seule sur une après-midi, j'avais les pétoches, mais je m'en suis bien sortie. Et ça reste quand même. Je préfère être à plusieurs, mais en fait, ça y est, quoi.
Et tout à l'heure, du coup, vous avez parlé de la soirée de soutien. Une imprimerie, quand on entend parler d'une imprimerie, c'est un truc industriel souvent, commercial, et parce que du coup il y a des enjeux qui sont quand même particuliers du point de vue financier. Du coup, comment vous fonctionnez par rapport à ça?
On essaye de faire payer que le prix des consommables, du coup de l'encre, du papier, et tout ce qui est le loyer, c'est à notre charge. Après, si les gens ont envie de rajouter un petit peu d'argent pour nous aider à payer le loyer, c'est chouette. Et après, tout ce qui est pièces, etc., Et ben là, par exemple, on avait fait cette soirée de soutien parce que la machine, elle a, c'était aussi son anniversaire. Du coup, elle avait 50 ans. Et pour remplacer tout le système d'ancrage de la machine.
Okay.
Et du coup, ça, c'est un peu une autre partie de nous en tant que collectif de chercher un peu de l'argent pour que cet endroit-là, il fonctionne, quoi.
Et on se débrouille.
Voilà.
Ok. C'est bien la débrouille. Ouais. Bah, et oui, le morceau alors pour la playlist.
Je laisserai un morceau de que j'adore écouter en faisant du massico pendant pendant les jours de canicule d'été. Ouais. C'est un groupe qui s'appelle Meitei Show, je sais pas si tu connais, qui est super. Et je saurais pas décrire ce que c'est comme style parce que c'est assez hybride. Et c'est super. Et, c'est très bien pour travailler à l'infini.
Yet many people been protesting, marching, shouting, saying that this war should never be. Hey. But again, the South Brooklyn peacekeepers say war is the only solution to set your lucky people free and change the tide. Yes, destroy the weapon of mass destruction and set the world free from all friends. So he called this coalition, send his soldiers on a mission. Call his big doctors to twist public opinion, saying that the war will be fast and clean. But we all know now that the first victim of war is innocent. Yes, we all know now that the first victim of war is innocent. And I wonder where is their sense of justice? Is it to slay innocent people? Say to do it in the name of peace? Is it to slay innocent people? Say to do it in the name of peace? Is it to slay innocent people? Barbaric hellfire messiahs to chase the tyrant, but the rise has disappeared, remaining invisible, just like Bin Laden in his days. Maybe gone in the moment, or lost in the mountains of Tora Bora. Oh Lord, and I wonder, what about the streaming messages compelling at war? Iraqi people playing with their own blood, and soldiers of the so-called army of liberation drop to deep in the streets of Baghdad. Tracking their dead each and every day, showing that the place is still not safe. Oh, the place is still not safe. Yes, the place is still not safe.
Mr. Bush and Mr. Blair, one day tell us what are the real reasons of this war? Are they doing it for oil or power control? When I see the results of their actions, I just say to myself, all their masquerades are leading the world into danger. Yes, all their masquerades are leading the world into danger. Oh. And people's life and getting better, I know. Iraqi people's life and getting better, believe me, people. Oh yes, 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 Iraqi people's life and getting better. No, 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 no. No, people's life and getting better.
Et voilà, Maïté Chaud sur De Joie, Rage et Courage, et on va retourner du coup dans cet hangar de la banlieue parisienne pour réécouter un peu les gens de l'attaqueuse, une bout de l'équipe de l'attaqueuse qui veut nous parler de, eh ben de, du processus d'impression et du rapport avec l'avant et l'après, la production d'affiches. Voilà.
Est-ce que avant de vous lancer dans l'imprimerie, vous aviez déjà l'idée de faire des affiches ou de faire des trucs, oui. Est-ce que vous en faites toujours?
Moi, oui, un petit peu.
Ouais. Ouais, moi aussi, un petit peu plus avant, j'ai l'impression. Mais
je pense oui. Que dans l'idée, on aimerait vraiment arriver à nous produire des choses, des affiches, des textes, peut-être même ensemble, en discutant et tout, mais... c'est un temps énorme, et en plus en fait je trouve que comme sur cette machine on imprime que des grandes quantités, du coup ça demande d'être un peu d'assumer vraiment l'affiche que tu vas faire. Si tu sais que ton affiche tu vas la sortir en 3 couleurs, en 1000 exemplaires et tout, faut que tu en sois vraiment fier, que tu te dises oui celle-là il te la faut en 1000 exemplaires. Et en fait c'est pas si évident que ça d'avoir ce rapport avec ce que ça produit, quoi. Enfin, à moins vraiment d'avoir un truc à un moment, non mais ça il faut absolument cette affiche, ça arrive pas toujours, quoi.
Après les moments où on l'a fait, c'était plutôt
c'était chouette,
ouais. Bah, parce que ça motive bien. Aussi pour par rapport au temps que tu consacres à imprimer, quoi.
Ouais.
Et nous en fait on imprime du coup des trucs où il n'y a pas de... Enfin, on ne fait pas de... Je sais pas comment expliquer, mais... Il n'y a pas de valeur marchande, quoi. C'est... Du coup, c'est dans un réseau où on partage une certaine idée, l'autonomie, la lutte contre l'État, du capitalisme. Et du coup, c'est un peu dans ces réseaux-là que les gens ils sont au courant que cette machine existe et qu'ils nous proposent des
affiches, des textes. Et du coup, après, on décide si on imprime ou pas, déjà en fonction de notre temps, si on se trouve en accord, à peu près en accord au moins, avec ce qui est écrit ou ce qu'il y a visuellement, tout ça. Et si ça le fait, on imprime.
Du coup, en fait, le processus, c'est il y a des gens qui vous contactent pour dire
Ou les gens ils viennent nous voir, ils savent qu'on participe à cette imprimerie-là, où on a une adresse mail, où on reçoit des projets qu'on nous envoie, quoi. Et à partir de là, nous, on essaye d'en discuter entre nous, de lire ce qu'on nous envoie. Et de voir si ça motive quelqu'un de l'imprimer, quoi. Et après, on s'est dit qu'on n'était pas tous obligés d'être d'accord ou pas d'accord. mais que ça n'empêchait pas que ce soit imprimé ici, sauf s'il y avait vraiment un réel, on trouvait qu'il y avait un réel problème avec ce qui nous était proposé.
Est-ce qu'il y a des échanges sur le contenu ou est-ce que c'est juste arrivé?
Non, c'est rare.
Enfin, pourquoi c'est rare? Est-ce que c'est...
Bah, pourquoi c'est rare? Parce que, je sais pas, je pense que soit les gens, ils nous connaissent, ils savent que ce qu'on peut imprimer, en quel format, en quelle couleur, etc. Et donc, ils font leur truc dans leur coin pendant 3 nuits blanches, j'en sais rien, leur affiche, et puis après... voilà, il la présente. Et si c'est des gens qu'on connaît pas, bah en fait, je pense que c'est pareil. Ils bossent sur un projet. Puisque, en fait, c'est difficile de se dire « Oui, peut-être, je vais faire telle affiche un jour. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ?» et tout. Je pense que... Ouais, je sais pas, hein, c'est plus simple pour les gens de faire leur truc. Et...
Souvent, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Et on n'a pas un rapport d'édition, quoi. On a quand même... Et des fois, ça bloque un peu, mais on a le rapport de réaliser le travail, la phase d'impression, quoi.
Du coup, alors, paf, vous recevez, on vous transfère les fichiers PDF.
Ouais.
Et après, vous faites le truc et vous l'envoyez, et puis basta, ouais.
Ça y est, c'est bon.
Après, c'est facile. Non.
Souvent, on a essayé de diffuser un peu une petite brochure qui explique un peu comment faire les fichiers, parce que ça implique aussi une certaine pré-presse, quoi, du coup une certaine adaptation du fichier à la machine, qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde, parce que c'est pas les standards de l'imprimerie actuelle, forcément. Et du coup, à partir de là, après c'est parti.
Et du coup, après, les personnes qui vous envoient le fichier, juste, elles reçoivent le truc ou elles viennent pour l'impression ou c'est...
Alors nous, on veut que les personnes qui nous demandent d'imprimer quelque chose, on demande aux personnes de venir voir comment se passe la machine, comment se passe une impression, donner un coup de main. On s'est assez limité... On ne peut pas prendre en main la machine comme ça, évidemment, mais en tout cas, juste au moins voir le processus et que les personnes se rendent compte aussi que c'est du temps et que... Et voilà, puis ça permet aussi de discuter de ce qu'on est en train d'imprimer. Ça permet aussi de faire du réseau, c'est chouette. Donc,
il y en a qui sont venus pendant les impressions un peu plus longues, faire à manger le midi, nous amener l'apéro le soir. C'était plutôt chouette.
On essaye, on n'a pas envie d'être juste prestataire de service non plus, quoi. Même s'il y a une technique, un savoir qu'on a et qu'on peut pas transmettre comme ça en 5 minutes, on aime bien quand même partager un peu autour de la machine, expliquer deux trois choses et tout.
Et tout à l'heure, quand on parlait de, est-ce que vous avez déjà les affiches avant, c'est un problème de temps, c'est un problème d'énergie, c'est un problème du coup. Parce que moi, je pensais que ça aurait été le contraire, de dire « Ah, en fait, c'est cool d'imprimer les choses qu'on nous propose et tout, mais maintenant, peut-être que je me sens aussi... ça me ferait encore plus plaisir d'imprimer quelque chose qui vient de moi. Ou... »
Bah, déjà, je te disais tout à l'heure, ça met la pression de savoir que tu vas en sortir 1000 et que tu vas passer des jours et des jours dessus et qu'après, tu pourras pas les coller tout seul. Donc... Enfin, je sais pas, ça demande d'être sûr de ce que t'as fait, quoi. Et après, c'est une question de temps aussi, tu vois. Moi, je me dis, je passe déjà peut-être une semaine par mois dans les périodes où ça tourne bien, et peut-être une semaine tous les 2 mois quand ça tourne un peu moins à l'imprimerie, ça me prend déjà pas mal de temps. Et du coup, bosser sur des affiches, des visuels et tout, ça prend du temps aussi.
Du coup, ça donne envie de faire autre chose aussi, quoi. De passer à autre chose à d'autres moments. Parce que quand on imprime, c'est assez prenant, quoi, quand même.
Ouais.
Du coup, on y consacre. Même si maintenant on s'en sort mieux, et je pense qu'on arrive à faire d'autres choses en même temps qu'on imprime, il y a des fois où c'était notre vie pendant une semaine.
Là, on a fait une grosse impression quand même au mois d'octobre. Moi, je sais pas si je suis remise encore là. On a passé 3 semaines, 2 semaines sur la machine et après 3 semaines en post-prod. sur l'assemblage et tout.
Ouais, c'est long. Et,
ouais.
Et ouais, du coup, c'est ça le, c'est la question de donc l'avant, le fichier qui, enfin la rencontre, le contact, le fichier qui arrive. Hop, l'impression, tac tac. Et après, il y a le, c'est la diffusion. Mm. Ah ben, ouais, ça fait plaisir d'un coup de le voir dans sur les murs de la, sur la.
Ah
mur,
bah ça ouais. 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 Ça c'est sûr. Quand tu vois une affiche qui a été imprimée ici, même dans un quartier où tu passes jamais, où tu connais personne et tout. Tu... Ah ouais, c'est cool.
Il y a une petite satisfaction à voir ça. Et sur le truc de diffusion, au début, on le faisait, enfin, moi, en tout cas, quand je suis arrivée, c'était, on ne le faisait pas trop. Mais là, on a essayé de garder des exemplaires de fanzines, de bouquins. Voilà, la dernière affiche, c'était pour nous qui l'avions. Enfin, c'était un projet qu'on avait ici, quoi. Du coup, on en a gardé un peu, essayé de la diffuser. Mais c'est un peu aussi une demande, ça, par exemple, des gens qui passent ici. De dire, est-ce que vous n'auriez pas envie de... d'en garder un peu, est-ce que...
Ouais, en fait, ça dépend aussi de qui a proposé l'impression, quoi. Si c'est des, si c'est des gens d'ici ou de, fin de Paris ou pas. Mmh. Enfin, du coin ou pas. Mais après, bah, par exemple, il y a une fois où on voulait imprimer, on savait pas trop quoi imprimer. Enfin, on n'avait pas de projet en route. Du coup, on a choisi quatre brochures qu'on aimait bien... sur internet, on a fait des jolies couves en couleur et tout. Enfin, jolies, ça dépend lesquelles. mais en tout cas, certaines étaient jolies. Et là, bah, du coup, c'est nous qui nous sommes occupés de la, un peu de la diff, quoi. Donc, enfin, bon, on a des cartons dans un coin et puis des fois on en sort et d'autres fois on les oublie pendant 6 mois. Ça dépend. C'est pas très développé encore la diffusion chez nous.
Voilà, de retour sur les studios. Donc voici, c'était le son de la rencontre avec un bout de l'équipe de l'attaqueuse. Et maintenant, on va faire un petit voyage de plusieurs centaines de kilomètres pour se retrouver dans le Pila, où on a rencontré une personne qui participe à une revue qui s'appelle Tumult. Une revue dont le 9e numéro vient de sortir le mois dernier. Et donc, et ben, une rencontre où du coup on a discuté de ben, c'était quoi Tumult, comment ça fonctionnait, et ben, du processus également de réappropriation de l'écriture et de la diffusion d'idées. Et bref, vous allez voir, ben, il y a plein de choses qui se répondent entre ce qui se passe à l'attaqueuse et ce qui se passe du côté de chez Tumult. Donc ben voilà le début de l'interview avec la présentation de Tumult et du coup de qu'est-ce que c'est Tumult et comment ça fonctionne. Allez hop, c'est parti.
Toi tu fais partie de l'équipe qui fait Tumult.
Oui, c'est ça, je fais partie de l'équipe de fabrication. Ben c'est super, hein. On est trois, on serait bien... Enfin on est trois, non c'est pas vrai, on est trois ou 20. Ça dépend du point de vue où on se place, quoi. Là, on est trois depuis quelques années à être à chaque fois dans l'équipe qui va se rencarder à tel moment pour dire « Ah ben ouais, quand même, il faudrait qu'on pense à lancer le prochain numéro, qui fait du suivi de texte, qui pense la conception en tout de qu'est-ce qu'il va y avoir comme contribution, des allers-retours avec les personnes qui contribuent, etc. » mais après, dans chaque numéro, il y a une vingtaine de personnes qui contribuent entre les textes et les dessins, images, etc. Les coups de main sur la mise en page, sur la photo, sur les relectures, etc.
Ok, et du coup, ces 20 personnes, c'est 20 personnes qui sont là peut-être à un numéro, qui seront peut-être pas là au prochain, mais qui seront de nouveau là, peut-être celui d'après, quoi.
Ouais, c'est voilà. Ça, ouais, ouais.
C'est mouvant, quoi.
Ouais, c'est mouvant. Alors, ouais. C'est marrant parce qu'il y en a qui vont... il y en a qui vont être là plusieurs fois, il y en a qui vont être là à un moment, et puis qui vont revenir plus tard.
Mmh. Et en fait, du coup, Tumult, on ne l'a pas présenté, mais donc c'est un journal.
Qu'est-ce que c'est, ouais.
Ah, ouais.
Ouais, c'est un journal ou une revue, ou un magazine, ou... voilà, qui... comment ça s'intitule, Tumult, un peu analyse et critique sociale, un truc comme ça, je crois. L'idée, c'est de... Donc, ça paraît à peu près une fois par an, voire là, un an et demi. Donc c'est quand même une périodicité qui existe, mais qui est plutôt distendue, quoi, un rapport au temps assez distendu. Donc c'est des sujets... On a l'impression que les articles qui sont dedans, en tout cas, ça reste d'actualité. Ça va pas être un truc où on est dans du... Je sais pas quoi, comme dans le journalisme, dans du scoop et du... Ça se périme pas très vite, quoi. Malheureusement. Malheureusement. Je dis ça parce que, du coup, c'est l'idée de parler de lutte sociale. Ouais, ou d'aborder... Je sais pas comment dire. D'aborder le politique d'un point de vue un peu décalé, à certains moments. De comment on construit, comment on fabrique du politique ensemble, comment on se constitue en sujet politique. C'est un peu tout ce genre de sujets-là qui vont nous intéresser. Alors, ça existe depuis, je dirais, la revue en tant que telle, là, le numéro 1, il est paru en 2009. Il a dû paraître à l'automne 2009. Donc ça fait 6 ans et demi, 7 ans. Là, c'était le numéro 1, et là, c'est le numéro 9 qui vient de paraître il y a un mois. Donc voilà, petit bout de route quand même qui a été cheminé par cette revue.
Et à chaque fois, il y a une espèce de une thématique principale.
Alors non, il n'y a pas vraiment. En tout cas, on n'a jamais travaillé jusqu'à maintenant avec. On lance une thématique qu'on voudrait qu'il soit pour le prochain numéro, sauf peut-être pour le dernier. Ça a commencé à venir comme ça, mais c'est plutôt en fait à chaque fois on a lancé un appel à contribution. Où c'est hyper intéressant comme travail. On se fait une discussion. Du coup, les trois, ça varie entre 3 et 5 personnes. Qu'on appelle le comité de rédaction, mais alors je sais pas, c'est un peu parce qu'on s'approprie des mots qui existent déjà, tu vois, donc il faudrait qu'on réinvente. Donc on réinvente ce truc, là, en tout cas, les 3 à 5 personnes qui suivent un peu ce processus-là, on se fait des bouts de discussion assez intéressantes sur c'est quoi nos préoccupations du moment. Et ça nous fait dégager des trucs qu'on aimerait bien voir réfléchis, discutés, je sais pas quoi, creuser, quoi, on aimerait bien creuser ces sujets-là. Puis comme tout le monde, on est enthousiaste sur plein de trucs, mais on n'a pas le temps de tout creuser. Donc c'est aussi l'occasion de rédiger un appel à contribution en disant, bah voilà, si vous avez envie, nous, ce qui nous touche en ce moment, c'est ça, ça, ça et ça. Et puis, on reçoit des retours, et en général, ça tombe exactement à côté. Ça tombe très rarement dans les sujets qu'on a proposés. Et c'est hyper intéressant, parce qu'on est aussi enthousiaste, etc. Et ça laisse quand même de l'enthousiasme pour les contributeurs, contributrices, là.
Et par exemple, du coup, ce petit je sais pas, noyau, etc., qui est assez régulier, quoi.
Ouais.
Vous écrivez aussi des textes
Ça arrive, ouais, pas toujours. Au début, beaucoup. Parce que le projet, il est né. Alors moi, j'étais pas là au départ du projet, je suis arrivée pour la diff du numéro 1, en gros. Je suis arrivée pour diffuser le numéro 1 et commencer à construire le numéro 2. La genèse du projet, un peu, c'était des copines qui se retrouvent, qui sont dans des milieux politiques. Je sais pas, on va dire autonome, autogéré, autogestionnaire, etc., anti-autoritaire, et qui se disent bon, en fait, ça va pas là. Il faut qu'on trouve des moyens de, parce qu'on vit du sexisme au quotidien, il y en a ras-le-bol, et même dans les luttes, etc. Donc quand même, ça fait chier. Et au départ, c'était pas forcément un projet de revue. Alors je me souviens plus des détails, mais c'est devenu un projet d'écriture et de revue. Et donc au départ, les premières personnes qui ont fait ça, en tout cas, elles ont toutes, ça venait toutes de trucs qu'elles avaient besoin de ou envie de mettre sur table. Et du coup, au départ du projet, c'était vachement plus le noyau qui produisait des contributions. Et après, il y a eu vraiment ce boulot de fourmi, un peu de commencer à aller chercher des contributions vers l'extérieur.
Et du coup, vous faites un appel, un texte et tout ça, un mail que vous envoyez à plein de gens. Et après, du coup, l'étape d'après, c'est quoi?
Ouais, voilà. Alors du coup, c'est comme ça, le déroulé, on fait ça, on se réunit à un moment donné, on se raconte un peu nos vies. On envoie un appel à contribution, et en donnant un peu des dates. Et là, on commence à recevoir des contributions, des propositions de contributions par mail. En parallèle, on sollicite aussi des personnes. Il y a aussi une histoire de réseau, forcément, on ne sait pas complètement. L'appel à contribution, il circule dans des réseaux. Il ne circule pas sur partout, quoi. Je dirais, il n'est pas accessible partout, bien sûr. Donc ça circule quand même dans certains réseaux. Et des fois, on va aussi solliciter des personnes en particulier en disant « Ah, ça nous intéresse, on sait que toi, tu travailles là-dessus, ou que tu as une réflexion intéressante là-dessus, vas-y, on te pousse à écrire ou à raconter, ou si tu veux, on fait une interview et puis on retranscrit, c'est une autre façon de faire, etc. » Mais du coup, l'étape d'après, ça va être on reçoit des premières propositions de contribution, et après, là, on va mettre en branle une espèce de travail d'aller-retour entre les personnes qui contribuent et le noyau un peu de tumulte, là. Mais ça dépend des moments, en fait. Il y a vraiment plein de façons de contribuer différentes. Des fois, ça va être... on reçoit juste deux phrases. De dire « Ah, moi, j'aimerais bien réfléchir à ça, mais je ne sais pas trop comment faire, je ne sais pas par quel bout le prendre. » Alors, on peut proposer des rendez-vous, on peut proposer des discussions par téléphone ou quoi pour aider la personne à se lancer. Des fois, ça va être faire se rencontrer trois ou quatre personnes qui ont l'air de vouloir travailler sur un peu les mêmes sujets aussi. Et après, voilà, il va y avoir, en fonction de dans quel état les gens peuvent envoyer des contributions, à l'état de prise de notes, juste une problématique. Des fois, c'est des textes qui sont quasiment aboutis, où il n'y aura rien à modifier dedans. Et en fonction des personnes aussi, elles vont dire moi, j'ai vraiment envie d'avoir des retours pour pouvoir savoir dans quel sens aller, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça se déroule et tout. Puis il va y avoir des personnes qui vont arriver avec un texte en disant voilà, c'est ça, ça c'est ma pensée, et puis il n'y a pas moyen de bouger des trucs, des fois c'est possible, des fois pas.
Après, c'est vous qui décidez si ça rentre dans le cadre de Timut, si ça.
Ouais, c'est hyper rare qu'on publie pas. Ça ne nous est quasiment jamais arrivé. Et on a dû refuser une ou deux contributions, textes. Parce qu'on trouvait ça complètement opaque. Par exemple, on ne comprenait pas de quoi ça parlait, où ça voulait en venir. Il y avait un format une fois, je crois aussi, parce qu'on n'était vraiment pas d'accord avec du contenu. Il y a des trucs qui ont été proposés à la publication, mais qui nous ont paru être du travail en cours, qui n'ont jamais été publiés dans Timut et qui sont un peu dans des tiroirs en attente, en se disant qu'ils sont aussi dans un truc de dire, en fait, dans la construction du numéro, avec les autres trucs qui sont prévus là, ça ne marche pas. Ou bien... Ce sujet-là, certes, il est intéressant, et la façon dont tu l'abordes est intéressante, mais tout seul, ça marche pas, on l'assume pas tout seul. On aimerait qu'il y ait plusieurs regards, ou je sais pas comment dire. Donc oui, on fait quand même un certain boulot d'édition, je crois, je sais pas comment dire, mais de... On choisit, quoi. Ouais. On a un pouvoir hein, là-dedans, c'est sûr qu'il y a quand même pas beaucoup de personnes qui ont un certain pouvoir là-dedans. Après, le groupe, il est ouvert à s'agrandir.
Enfin, déjà, est-ce que les gens qui écrivent, c'est des gens qui ont l'habitude d'écrire. Et est-ce que le format, est-ce qu'ils écrivent particulièrement pour Timut ou est-ce que c'est...
Ça dépend. Je trouve que ça dépend. Il y a vraiment plein de styles différents. Là, dans le dernier numéro, on est beaucoup allé chercher dans un... Là, c'est vraiment nous qui l'avons plus... On est allé chercher des gens à un moment donné, pas mal. Et on a impulsé un travail qui nous avait été proposé par une copine de traduction de textes qui avaient été écrits en allemand. Avec, en même temps que traduire, tout un travail autour du niveau de langage. Je sais pas s'il faut dire niveau, mais en tout cas, tout un truc de se dire, en fait, c'est vachement dans le registre universitaire, c'est chaud. Et une des problématiques de Timut au départ, c'était de se dire... On remarque une construction genrée qui fait qu'en tant que meuf, entre guillemets, ou en tout cas qui n'ont pas été socialisées comme des hommes, on se dit toujours que la théorie politique, c'est pas pour nous, on n'est pas capable, on va rien comprendre. Alors en plus, la produire, oulala, c'est pas possible. Et c'était un peu pour lutter contre ça aussi qu'il y avait ce projet Timut au départ. Ouais, du coup, il y a eu ce travail-là dans le dernier numéro, vraiment de se dire, on a envie d'aller chercher, et on a des copines qui se mettent à aller faire du travail à l'université. Et elles prennent le temps et de l'énergie pour faire ça, elles font du boulot super intéressant. Et en fait, ça va rester dans les archives de l'université, c'est accessible qu'à l'élite universitaire. Ça nous fait envie aussi de publier des bouts. Du coup, dans le dernier numéro, il y a peut-être un peu cet effet-là, où il y a trois trucs au moins, trois grosses contributions qui viennent plutôt du milieu universitaire, avec des formats différents, mais...
Parce que moi, du coup, je l'ai que feuilleté. Oui. Et en tout cas, j'ai vu aussi qu'il y avait un texte où, en tout cas, il y avait toute une partie avec plein de définitions.
Ouais, ça, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on a raté un truc dans la mise en forme, mais ça, c'est à chaque fois, on a trop de trucs, du coup, on tasse. On a vraiment ce problème-là que depuis trois numéros, on est à maximum 80 pages. On tasse pour faire moins, parce que l'imprimeur nous a dit « Franchement, c'est le maximum, c'est très chiant à agrafer. » Et du coup, sur la question des définitions dans cet article, c'est hyper intéressant. Je trouve ça, c'est un boulot qui a été fait par les traductrices de cet article, qui était au départ écrit en allemand, ces trois articles. Et en fait, ça aurait dû faire un article à part entière. Parce que du coup, on a, dans la marge, on a des textes qui sont... écrit par des gens qui sont issus de l'université et qui parlent sur les questions de mouvement antiraciste et comment on aborde l'antiracisme dans la lutte. Des gens qui viennent de l'université, ou en tout cas qui sont passés par l'université et qui y sont en ce moment, je crois. Et sur le côté, il y a une espèce de glossaire avec les traductrices qui ont repris des mots comme postmoderne, je sais plus, mais des concepts un peu concept vraiment, et qui aident à réfléchir les choses, je trouve. Et je trouve qu'il est hyper bien ce boulot-là qu'elles ont fait, sauf qu'en vrai, c'est hyper mal mis en valeur. Mais c'est un article hyper intéressant, ouais. C'est sûr que si vous lisez Tumult, prendre, se motiver à lire ce passage-là, qui est en colonne de droite sur fond jaune.
Du coup, feuilleter Tumult, et du coup, j'ai vu ce moment-là, cet article-là avec ces définitions. Et du coup, par exemple, quand on feuillette juste Tumult comme ça, ça permet juste d'avoir hop, un point d'accroche et un truc. Ah, mais tiens, t'as vu, il parle de ça. Et tu peux lancer, en tout cas. C'est une discussion là-dessus.
Ça fait un truc visible.
Ouais, mais du coup, ça fait aussi partage un truc, genre une base commune. Où, parce que à partir du moment où tu définis quelque chose, et tu aussi, tu un peu. Tu, potentiellement, tu l'enfermes. En tout cas, tu mets des cadres directement. Et du coup, est-ce que c'était un objectif de ça pour après amener des discussions ou comment ça,
En tout cas, c'est des mots qui reviennent dans le texte, des concepts qui reviennent dans les textes, dans les trois textes là régulièrement, et du coup qui a besoin d'être explicité. En tout cas, en faisant le travail de traduction, elles ont trouvé, les deux traductrices plus la personne de Tumult qui faisait des allers-retours avec elles, ont trouvé que vraiment il y avait besoin de ça. Alors après, l'objectif, je sais pas s'il y avait un objectif précis, quoi. En tout cas, je pense qu'il y a ce truc de cadrer et de poser un truc. Moi, ça me fait cet effet-là, par exemple, qui est aucune culture universitaire, de me dire ah ben c'est hyper bien parce que pour une fois la modernité, je commence à comprendre ce que ça veut dire, par exemple. Du coup, ça me fait un truc de poser un cadre, effectivement. Après, si j'y réfléchis, je me rends compte que ça pose un cadre, ça limite des choses, et que les cadres, on les pose pour pouvoir les éclater après derrière. Mais
et c'est que du coup, bon, ces définitions ou ces cadres, en tout cas, ça fait on veut dire un point de départ commun.
Ouais.
Et qui permettent après des discussions en fait à partir. Et du coup, est-ce que Tumult, il a été, est-ce que quand vous le faites, vous préparez aussi des moments de discussion après, ou est-ce que ça c'est un truc que vous dites, ça nous échappe, c'est plus à nous, ou est-ce que quand vous sortez, vous faites des discussions, comment ça se passe?
Ça nous arrive de faire ça. Après, on n'est pas tout aussi friande de cette posture-là. Ça dépend des moments. Il y a même eu des fois où on a fait une tournée, par exemple. On est allé en Bretagne, on a été accueillis à Nantes, à Rennes, à Brest et à Notre-Dame-des-Landes. Voilà, organiser des bouts de discussion et proposer des ateliers d'écriture. Et par exemple, moi, ma posture, c'est quand même, je suis plus à l'aise dans l'idée de proposer des ateliers d'écriture en petits groupes sur des sujets précis ou qui viennent des demandes des gens sur place, plutôt que d'animer des soirées, discussions, débats. Ça, je trouve ça vraiment compliqué sur des sujets thématiques parce que c'est abordé dans Tumult. Alors après, je pense que sur discuter sur comment on le fait là, sur un projet d'édition, sur comment on fabrique des idées, comment on les diffuse, comment etc., je vois en quoi peut-être c'est intéressant d'aller faire vivre et faire parler une revue, quoi. Mais sinon, je trouve ça délicat, en fait, parce que je trouve que quand on arrive, qu'on est invité pour animer un débat en tant qu'intervenante, intervenant, et ben on est assigné, enfin, on se retrouve dans une position d'expert, que c'est dur de se dépatouiller, là, comme ça. Et en fait, voilà, ça, c'est pas un truc qu'on a vraiment envie. Mais en tout cas, le fait que tu disais tout à l'heure que les articles de Tumult, ça fait hyper plaisir, ça puisse être des points de départ de discussion entre potes ou quoi, surtout quand on prend les textes dans l'intime, moi ça me fait cet effet-là aussi, et c'est ça que j'ai envie, vraiment. Je peux pas parler à tout prix au nom des autres, mais je pense que les autres dans Tumult aussi. Et c'est vraiment un truc qu'on s'est dit, ou en tout cas dans le projet Tumult, il n'y a pas l'idée d'être une tribune de propagande politique. Il y a l'idée d'être une tribune d'expression pour des gens qui auraient peu ou pas accès à ça, comme moyen de diffuser leurs paroles, mais pas du tout un programme, quoi. C'est-à-dire qu'on nous a reproché ça au début, puis maintenant je pense que les gens ils nous ont capté, donc ils arrêtent de nous reprocher ça, peut-être ils arrêtent de lire Tumult, mais il y a des gens qui nous ont reproché, en fait, on sait pas où vous allez, vous posez des questions, c'est bien mignon, c'est des belles cartes postales, je sais pas quoi, mais on sait pas où vous allez, quelles sont les propositions. Alors peut-être il y a des moments où c'était peut-être quand même trop flou et il y avait juste de la question avec pas étayé ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'est vraiment un truc qu'on revendique, d'arriver avec des questions et de pas arriver avec des réponses. Après, on est sollicité à des moments pour intervenir ou pour venir présenter le contenu, etc. On le fait un peu. Alors, il y a des moments où ça me met plus ou moins à l'aise, quoi. Par exemple, une des critiques que on savait que ça allait sortir de toute façon, et c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas résolue. Nous, on avait très envie de travailler, c'est des questions qui nous travaillent beaucoup depuis les dernières années, de travailler les questions de racisme. Et après, on est toutes les trois européennes blanches, quoi, d'origine européenne. Donc ça pose une question sur qui on est et d'où on parle sur cette question-là en particulier. Et alors, je pense que c'est pas forcément visible dans Tmult quand on prend Tmult, mais du coup ça questionne, et c'est vrai que par exemple, moi c'est sûr que je vais pas être à l'aise pour aller particulièrement parler de ce numéro-là, même si c'est juste parler de à l'occasion de la sortie. Je me rends compte que effectivement c'est compliqué de se dire oui, en fait on donne la parole à des personnes racisées, et du coup c'est vraiment elles qui prennent la place et qui s'expriment dans les colonnes, etc. Mais si après moi je vais parler de cet exemple, ce numéro, je sais pas en fait comment est-ce que j'arrive à l'assumer ou pas. Du coup c'est ça aussi qui fait des questions compliquées, je trouve, c'est de dire vouloir qu'à la fois ce soit une tribune pour des paroles peu ou pas entendues, et le fait d'arriver après pour en parler, c'est à la fois ça fait de la, je sais pas, enfin l'effet propagande de dire faut lire, c'est des paroles importantes à écouter et tout ça, et en même temps pourquoi c'est moi qui vais dire ça à ce moment-là. Bon, voilà, c'est de la question encore ça.
Et du coup, par rapport à la playlist ?
Bah ouais, tu vois, c'est marrant, tu disais les morceaux qui me foutent la pêche. Moi, depuis des années, c'est La Rage de Kine Arcana, ça en fait partie. Mais alors, c'est un grand classique, du coup, je me dis que peut-être tu l'as déjà eu 25 fois dans tes émissions. En tout cas, c'est sûr qu'il y a celui-là, quoi.
Jusqu'au bout et là on veut bien nous mettre.
la Kinyarkana proposée par la copine de Timult. On va poursuivre avec la suite de l'interview de Timult et à propos de des questions de l'écriture, de l'accès à l'écrit et d'atelier d'écriture et qu'est-ce que ça produit et entre ben voilà tout ce que ça produit et puis le rendu le journal. Voilà et ben la suite de l'interview de Timult.
Et comment c'est, par exemple, c'est imprimé comme un exemplaire Timult et puis c'est diffusé comment en fait?
Alors c'est imprimé à 3000 exemplaires là depuis les deux derniers numéros.
Avant c'était combien?
Au tout début c'était 1500. Okay. Le premier Timult il a été imprimé à 1500 exemplaires et il faisait 40 pages à peu près. Et la diffusion elle est artisanale on peut dire. Je sais pas comment dire, là il commence à y avoir un réseau qui existe. Alors après on s'est appuyé aussi sur nos réseaux propres de je sais pas, on se balade, on circule entre des villes, on est inscrite dans des réseaux politiques, etc. Sur des amis ou camarades ou quoi qui tiennent des infokiosques, des bibliothèques, des choses comme ça. Il y a beaucoup ça et après il y a aussi des gens qui vont dire ah ben moi je veux bien, j'habite à Saint-Étienne par exemple, je veux bien faire le tour des librairies, j'en prends 30 et je les pose dans les librairies et je m'occupe de la diffusion dans les librairies à Saint-Étienne. Bon voilà, c'est un peu vraiment artisanal en fonction des liens et des contacts qu'on peut avoir et après ça nous échappe quoi, bien sûr on sait pas exactement, alors on essaye, on a envie de savoir comment c'est diffusé, qui c'est qui lit et tout ça, mais en vrai on saura jamais tout quoi.
Et c'est une diffusion qui est la propre à Timult ou c'est genre un réseau de diffusion qui est fait pour Timult, mais aussi pour plein d'autres revues ou d'autres choses que des revues. Mais...
On ne travaille pas en coordination avec personne. Après, il y a des contacts qui s'échangent, mais disons que c'est ce petit noyau de Timult qui gère plus ou moins la diff et qui relance les contacts à chaque fois, etc. Après, les réseaux se croisent et puis il y a des gens qui vont... transporter dans leur sac à dos en même temps 5 Timult et 5 Labordage par exemple et puis 3 Z. Alors je cite des autres noms de revues dont on peut parler à d'autres moments mais ça va se croiser ou des bouquins de Taïn Party, il y a des gens qui vont dire ben voilà moi je fais déjà la diffusion en librairie pour les bouquins de Taïn Party à Toulouse, je veux bien prendre Timult en même temps pour le présenter au libraire. C'est un peu du réseau de camarades politiques ouais. Et ça en sort un petit peu par je sais pas, par nos vies qui font qu'à des moments donnés, on croise des gens différents, qu'on passe par des trucs de famille aussi, à des moments de cousins, de parents, je sais pas quoi. Ou...
Et du coup, Timult, il se vend?
Oui, Timult n'est pas gratuit. Timult se vend à prix libre.
Ouais, à prix libre, ouais. Même en librairie, etc. Non. C'est comment ça se passe, en fait
Alors, on essaye de le vendre un maximum à prix libre et on s'est vraiment mis d'accord que si on n'arrive pas à ramasser assez de sous, eh ben, on fera appel à du mécénat, entre guillemets. Alors, on appelle ça mécénat, ça fait moche, mais on aime bien, c'est le petit côté provoque à des moments. Mais par exemple, à solliciter des gens dans notre entourage pour un peu plus de thunes. Des trucs comme ça qui fait qu'on est détendu un peu sur ramasser des sous. Après, on essaye de s'y tenir quand même, dans ce truc de se dire non, c'est pas gratuit et on... Donc on ramasse du prix libre, on incite les gens à diffuser Timult à prix libre, à dire c'est super si tu peux nous les préacheter, par exemple tu tiens un infokiosque, t'en veux 5 pour ton infokiosque, est-ce que tu peux nous les préacheter au prix que tu choisis, par exemple ça peut être 1 euro, et si tu ramasses plus de sous après c'est bien, ça te fait des sous pour ton infokiosque. Et souvent ça marche de ramasser plus d'un euro pour Timult. Mais souvent les gens ne peuvent pas avancer, alors après c'est pareil, on s'échange des coups de fil, ah tu veux nous envoyer des sous, ah oui je voudrais vous envoyer 3,12€, alors bon voilà ça fait un peu des petites sommes comme ça, mais c'est marrant, ça fait du contact quoi. Et dans les librairies ça marche pas souvent le prix libre, parce que les libraires ils ont pas envie de se faire chier à gérer du prix libre. Alors moi ça c'est comme ça que moi je le formule, en vrai eux ils te disent ah, on peut pas, c'est pas possible, ça marche pas, ça rentre pas dans notre comptage, je sais pas quoi, bon d'accord si tu veux. Moi je trouve qu'ils ont pas envie, et quand c'est diffusé on a sur la couverture c'est marqué prix libre / prix libraire 3€, et ça couvre le 3€, c'est parce qu'au départ c'était 2€. C'est parce que souvent ils veulent prendre un tiers du prix, là, la commission, donc il fallait que ça tombe sur un truc facile, on disait 1,62€, c'est chiant, comme rendre la monnaie et tout, donc à mettre 3. Comme ça, ça fait un chiffre rond après. Ils gardent 1€, on récupère 2. Et ça couvre en gros les frais de, d'impression et les voyages pour aller chercher les exemplaires à l'endroit où on fait, les fait imprimer, les acheminer à droite à gauche, quelques timbres. Et on essaye, là de plus en plus on arrive à se défrayer quand on se réunit.
Sur l'élaboration, sur l'écriture d'articles, tu disais qu'au début vous produisiez plus d'articles que maintenant. Et est-ce que toi c'est un manque de... T'aurais envie plus de le faire? Ou est-ce que c'est...
Moi mon rapport personnel à l'écriture, il fait que j'aimerais réussir à plus écrire. Mais ça c'est, j'ai envie de dire, une histoire de problème personnel. Et les fois où ça a marché, les moments où ça a marché dans ma vie, c'était quand on arrivait à faire des ateliers d'écriture ou quand il y avait des ateliers d'écriture dans le coin organisés par d'autres ou quoi. Et je trouve que c'est hyper, hyper bien, quoi. C'est hyper ressourçant et ça donne de l'énergie, de l'enthousiasme et tout, de travailler sur des jeux d'écriture, sur des projets à plusieurs ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est un peu une problématique personnelle, je dirais. Et après, moi, j'ai jamais beaucoup écrit pour Timult, si ce n'est des chapeaux ou bout d'édito ou des trucs comme ça. Non, moi, je trouve ça pas mal de pouvoir laisser la place aux autres, en fait. Je trouvais... que c'était une place bizarre, que déjà on est à une place bizarre, là, les personnes qui sont dans ce noyau, et ben que si en plus, non seulement on a ce pouvoir de lancer le truc, de choisir ça va être quoi les textes qui vont y être, de décider qu'est-ce qui est publiable ou pas, et puis que ce soit la tri- puis vu c'est quoi notre position sociale dans ce monde, que ce soit notre tribune pour nous exprimer nous-mêmes, bon, moi j'aime bien l'idée qu'on soit pas forcément les contributrices principales, quoi. Après, ouais, plusieurs fois je me suis posé la question de ma place dans cet endroit-là. Et puis je trouve ça important que ça existe. Pour l'instant, je vois une pertinence à ce que ça existe. Alors j'arrête de me poser cette question. Parce qu'on n'est pas, pas assez nombreuses pour que ça tourne, quoi, je trouve.
Et est-ce que tu écris pour d'autres choses?
Non. Non, mais alors je te dis non, mais en fait, par exemple, quand on fait des ateliers d'écriture, c'est de se dire qu'en fait, si, on écrit tout le temps dans la vie. On écrit des mails, la plupart des gens écrivent des SMS, des lettres, des trucs pour l'administration. On écrit tout le temps, quoi. Tout le monde écrit, des styles différents. Ouais.
Et en fait, les ateliers d'écriture, du coup, toi, t'en fais
rarement, quoi. Rarement. De plus en plus rarement. Il y en a une des trois, là, qu'on fait plus, qu'on anime assez régulièrement.
Quand, par exemple, vous réunissez plusieurs personnes qui ont parlé dans leur mail ou dans leur contact d'un sujet. C'est-à-dire que tu vas aborder ça et que du coup vous les faites se rencontrer. Du coup, comment ça se passe? Vous faites des espèces d'ateliers d'écriture? Vous faites
Là, il va y avoir des temps de discussion. Ouais. Comment ça se passe? Des temps de discussion, des temps d'atelier, etc. Et après, sur les trucs d'ateliers d'écriture, vraiment. Alors, des fois, il va y avoir ça, effectivement. On utilise les billes qu'on a sur des trucs d'ateliers d'écriture pour lancer des groupes de réflexion, de discussion, creusement de thématiques particulières. Là. Mais après, sur le truc des ateliers, plus. C'était dans ce truc de, un peu dans les dynamiques éduc-pop, entre guillemets, là. Tu vois, de se dire, on se réapproprie un outil qui est en fait hyper élitiste. L'écriture, où il faut écrire sans faute d'orthographe, avec les bons mots, la bonne grammaire, etc. Donc du coup, il y a vraiment plein de monde qui pense que c'est pas pour soi, l'écriture. De se dire, ben, si en fait c'est un outil qu'on trouve... Nous, en tout cas, ça fait partie du projet, de la base, une des bases du projet, on trouve que c'est un outil intéressant je sais pas comment dire, affiner nos pensées politiques et nos critiques sociales, quoi. Et du coup, des outils de lutte. Donc c'est pour ça qu'on trouve ça important de l'approprier. Et du coup, c'est plus les démarches, quand tu parles des ateliers, les démarches d'ateliers d'écriture, par exemple, des gens qui vont nous proposer de dire, ah ben, soit des copines qui disent, ah ouais, j'ai vachement envie d'écrire, mais en fait, j'ose pas, j'ai jamais osé, je sais pas faire, comment on fait, et qui osent se lancer en disant ça, et ça crée un truc de, ah bah ouais, on vient. Et toi, dans ton réseau, tu proposes à des gens avec qui est-ce que tu aimerais partager un atelier d'écriture. Et nous, on arrive et on anime un temps de 4 heures avec des gens qui viennent. Et puis, à des moments, on va proposer des thématiques en réfléchissant avec les personnes du coin, là, les personnes qui nous accueillent. Du coup, ça a pu être, en fonction des contextes, ça a pu être plein de sujets différents.
L'écriture, Enfin, c'est l'espèce de truc entre la fin et le moyen, en fait. Est-ce que c'est un outil qui est utilisé pour arriver à quelque chose, ou est-ce que c'est juste l'objectif, c'est l'écriture. Et du coup, on tumulte entre la question d'élaboration, d'idées politiques, etc., ou d'échanges autour de ces idées politiques ou ces questionnements politiques, et la question du journal, est-ce que comment ça se passe en fait?
On essaye de séparer, vraiment. Au début, dans les premiers numéros, il y avait une rubrique qu'on appelait instantanée, où c'était des trucs un peu presque premier jet, des trucs qui venaient d'ateliers d'écriture. Puis au bout d'un moment donné, on s'est mis peut-être à faire moins d'ateliers d'écriture et à trouver ça de moins en moins pertinent comme proposition. Et en tout cas, dans les ateliers, quand on anime des ateliers d'écriture, comme je viens de parler avant, là, il y a vraiment ce truc de prendre la précaution, de dire, c'est comme une deuxième phase, quoi. Il y a le volet édition-publication, et il y a le volet, par exemple, c'est aussi un truc de travail sur soi, de prendre confiance, de se dire, en fait, je prends confiance là-dedans, en me prouvant que ce que je fais, c'est intéressant, et que je suis capable de prendre du plaisir à écrire. Et du coup, c'est vraiment un truc de dire, alors voilà, nous, on vient avec l'étiquette Tumulte et vous nous sollicitez parce qu'on a cette étiquette-là, mais en fait, on se sort des enjeux de la publication, vraiment, il n'y a aucune pression à ça, et on va travailler l'écriture, et puis si ça se trouve, vous aurez envie, il y en a qui ont fait des brochures avec les textes sortis des ateliers d'écriture, et il y en a qui ont continué à échanger avec nous et qui ont fait des propositions de contribution, par exemple, aussi, il y a des moments avec des textes qui avaient commencé à sortir à ces moments-là. Il y en a des groupes à qui ça a pu servir pour travailler leur dynamique collective, ou des choses comme ça.
Et du coup, en fait, à la fin, quand l'imprimeur il vous fait passer les cartons de Tumulte et que tu as le Tumulte palpable, on va dire, le papier, etc., est-ce que tu en es toujours contente, ou est-ce que des fois tu te dis, ah, mais en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé pendant ce temps de réparation, etc., il y a des trucs où... Enfin, c'est quoi ton...
Ça dépend. Je suis toujours contente. Il y a toujours une petite appréhension, par exemple, une petite appréhension, est-ce qu'on a choisi la bonne couleur, est-ce que ça va bien marcher la mise en page, est-ce que, etc. Sur le dernier, il y a eu un bug sur la couleur, par exemple, c'est pas exactement celle qu'on avait prévue. Bon, et ça, l'imprimeur s'est planté, il l'a reconnu et tout, bon. Et ça révèle, en fait, je trouve, c'est pas tant au moment, je trouve au moment où on le voit, souvent on est vraiment au moment où on le récupère à l'imprimer, on est vraiment, oh, c'est comme ça, ah ouais, alors on fait des allers-retours, on dit, ah ouais, ce dessin, c'est vrai que je l'aimais bien, je sais pas quoi, on est plutôt contente quand même. Ça fait un peu un truc, ça clôt une période de travail de façon assez sympa. Et puis après, on y va dans le détail et on a des retours de lecture aussi qui font se dire, ah oui, je me souviens par exemple, j'avais un doute sur ce truc-là. Et puis, vu les retours de lecture, je me dis que à refaire, je ne referai pas pareil. Par exemple, ce truc-là, je ne le laisserai pas passer à la publication, par exemple. Tu vois, sur des trucs, par exemple, sur du contenu, sur du fond.
Et est-ce que du coup, il y a plein de choses qui se passent qui ne transpirent pas forcément dans le papier et du coup, ça, c'est pas une frustration où tu dis, bah non, parce que Tumulte, c'est le papier, mais aussi tout le...
Tout le reste avec, non, moi je trouve que effectivement Tumulte c'est du papier, mais je pense que je me projette pas dans la réalité virtuelle de Tumulte, ou je sais pas comment dire, tu vois, qu'il existe dans son monde quand je suis pas avec lui ou avec elle, mais c'est sa vie après. Je sais pas comment dire, moi j'aime bien l'aventure avec l'équipe Tumulte, et c'est autre chose que la revue, le rendu journal ou quoi, alors c'est chouette, c'est agréable d'avoir ça, en plus les gens sont contents souvent et tout ça.
Non. Est-ce que du coup, ouais, c'est ça la question. C'est que du coup, est-ce que quand vous avez des retours de lecture, déjà, est-ce que vous en avez beaucoup et comment ça se passe? Par courrier, par lettre ou
Alors, mail? Ouais, pas des tonnes. On en demande souvent, on en a pas des tonnes, mais on en a un petit peu. Des fois, on reçoit des lettres dans la boîte aux lettres de Tumulte alors qu'on relève pas toutes les semaines. Donc, de temps en temps, on a un paquet et puis quand on se voit 3 ou 4 fois par an, on se les lit, c'est super. Il y en a vraiment pas beaucoup, mais c'est super à recevoir. N'hésitez pas à en envoyer. Et de temps en temps, on a des retours de lecture par mail, et sinon, c'est beaucoup de la discussion avec des gens proches, un peu des gens de notre entourage, de dire, ah ben tiens, j'ai discuté avec un tel qui m'a dit ça, j'ai eu ça comme retour sur tel dossier ou sur tel article. Ouais, c'est plutôt informel quand même.
Et des fois, du coup, par rapport au retour, c'est pas un peu, tu sens pas un espèce de décalage, dire, ah, en fait, tiens, la personne, elle a compris ça comme ça, et moi, en fait, en tout cas, je quand je l'ai fait ou je pensais.
Ouais. Ben ouais. Je pense que ça arrive carrément, ça. Et du coup, ça permet aussi, ça fait comme je disais tout à l'heure, ça fait la petite claque de se dire, ah ouais, en fait, bah oui, forcément, il faut réussir à se décaler sur des trucs. Et puis ben là, par exemple, on était 3 à penser à la construction du numéro. Si on avait été 5, on aurait pensé à plus de trucs. Hein. L'intelligence collective, on la vit à chaque fois, c'est sûr. Mmh. De se dire, ben voilà, on n'est que 3, ben c'est ça, on peut pas penser à tout. Mmh. Mais par exemple, ça crée aussi des trucs où là, dans le dernier numéro, du coup, une copine qui me dit « Oh là là, j'ai commencé cet article-là, c'est dur, je comprends rien, je comprends pas où on veut m'emmener et tout. » Et moi, j'avais kiffé cet article. Mmh. C'est moi qui l'ai lancé, la dynamique et tout, avec l'auteur. Alors j'étais là « Ah, du coup, je suis à donf, je lui explique c'est quoi l'idée, c'est quoi le projet et tout. » Elle me dit « Alors, une demi-heure de discussion, ah d'accord. » Et puis du coup, elle s'est replongée dedans, elle l'a lu en entier, elle a trouvé ça super. Mais tu vois, du coup, ça aurait pas pris, en fait. Mmh. Moi, je crois que ça me fait dire qu'en fait, il faut plusieurs choses, plusieurs styles d'écriture différentes dans un numéro pour que toutes les personnes différentes ou qui vont accrocher sur des trucs différents, elles trouvent au moins un article à accrocher et que ça soit intéressant et qu'ils disent pas « c'est de la merde, ça devient un truc universitaire, c'est pas pour moi » ou je sais pas, des trucs comme ça. Je trouve ça assez intéressant et c'est vrai que souvent, il y a des formats différents qui vont parler plus à certaines personnes qu'à d'autres.
Joie, rage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou un voix de l'autre. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose.
Et voilà, joie, rage et courage. Pour ce mois d'avril, c'est terminé. Un gros, gros, gros merci aux copines de la Techeuse. Et à la pote de Saint-Julien pour ces moments de discussion et puis aussi pour cette énergie. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de vous lancer, de faire des trucs, de pas baisser les bras et de se lancer dans des choses qui au début nous semblent inaccessibles. Voilà, voilà. Donc, on voulait aussi vous faire passer un petit message, c'est que du coup, on va faire un premier petit rencard public. L'idée, c'est de se retrouver dans un parc et de discuter des émissions qui ont eu lieu ces derniers mois. Alors, si vous avez envie de discuter de la lutte contre la THT, contre les compteurs Linky, contre l'enfermement, sur la ZAD, sur les élections, sur les armes de la police ou autre chose. Si vous avez envie de juste boire un coup, et ben on n'a qu'à se retrouver le jeudi 5 mai à 18h dans le parc du musée de la mine. Normalement il fera beau et du coup ce sera un moment agréable pour discuter et se poser pour parler des émissions ou d'autres choses. En attendant, rendez-vous dans la rue, il se passe plein de trucs, donc il faut y aller. On vous encourage à passer voir le site lenumero0.l'autre.net, où vous allez y trouver plein d'informations. Et rendez-vous dans la rue, et puis au mois prochain. Et en attendant, ne soyez pas trop sages. Thank you.